Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans le Carnet de région, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Pour ce dernier numéro de mois de mars, c'est Radio Alliance Plus qui en assure la rédaction en chef.
Aujourd'hui, nous commençons par faire un tour en Lozère pour y découvrir ce qui a été mis en place pour y favoriser le repeuplement du département.
Les chiffres de l'emploi sont tombés mardi dernier et le Languedoc-Roussillon compte 2000 demandeurs d'emploi de plus que le mois dernier. Un blog a décidé de s'intéresser à cette problématique.
Puis nous irons à Nîmes, dans le Gard, où a été inauguré un nouveau local du Secours catholique.
Direction l'Odève ensuite pour l'ouverture d'une permanence de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
Puis viendra le temps d'une pause café en Carcassonne. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant.
Et nous finirons en musique et avec accent puisque nous aurons l'interview de Linda Lemay.
Pour débuter ce magazine, nous vous proposons un reportage de Guillaume Delorme de 48 FM au sujet de l'accueil des nouveaux arrivants en Lozère.
La Lozère est le plus petit département de France en termes de population. C'est pourquoi l'accueil de nouvelles populations est une nécessité pour maintenir et accroître le développement du territoire. C'est ainsi que se positionnent les politiques de développement de la Lozère. Un réseau de structures qui s'impliquent sur cette question a été créé. Il est animé par le Conseil général de la Lozère et Lozère Développement, l'agence de développement économique. Écoutez Pauline Morin, coordinatrice du réseau Accueil Lozère, qui précise son objet.
Alors, l'objet du réseau Accueil, qui a été mis en place il y a maintenant un peu plus d'un an sur l'ensemble du département, c'est d'apporter un accompagnement dans le projet global des personnes qui souhaitent s'installer sur le territoire. Donc, on a des partenaires qui œuvrent pour accompagner les personnes dans le projet professionnel. Je pense notamment à nos partenaires les consulaires ou la SAFER ou également la Maison de l'Emploi. Et on a d'autres partenaires qui sont plus spécialisés sur le projet de vie en général, la présentation du territoire de façon plus globale. Ces partenaires-là vont être les pays, notamment les trois pays qui font partie du réseau Accueil.
Et comment fonctionne ce réseau? Comment faire si on souhaite venir s'installer en Lozère?
Vous pouvez contacter des structures donc, qui font partie du réseau, c'est-à-dire que si vous avez un projet de création d'entreprise, vous allez rentrer en contact, par exemple, avec la CCI. Ce contact rentrera dans le cadre de l'accompagnement du réseau. Vous n'aurez pas la sensation d'être suivi par autant de structures, mais en tout cas, toutes ces structures fourmillent derrière. Vous avez la sensation d'un guichet unique, en quelque sorte. Et sachez que si vous souhaitez vous installer en Lozère, en tout cas... toutes ces personnes œuvrent pour vous faciliter la connaissance déjà du territoire, parce que déjà il faut apprendre à connaître le territoire et s'installer ensuite de façon pérenne sur le département.
L'accueil, c'est aussi l'affaire de tous sur le territoire, l'hospitalité. Vous engagez donc un travail de sensibilisation des acteurs socio-économiques et de la population?
Alors, l'accueil de nouvelles populations, on n'y est peut-être pas tous sensibilisés sur le territoire. Et l'idée de ces réunions, c'est de présenter à un plus large public, les citoyens en général, les professionnels ou notamment également les élus locaux, leur présenter quels sont les enjeux de l'accueil de nouvelles populations, pourquoi accueillir de nouvelles populations sur notre département et qui sont ces nouveaux arrivants également. Voilà des questions auxquelles on peut être confronté dans le cadre de ces politiques d'accueil. On est donc en place des réunions sur l'ensemble du département. Ce sont des réunions qui ont lieu en fin de journée pour justement pouvoir essayer de cibler également des entrepreneurs. Et elle sera suivie d'un petit buffet, mais également de la pièce de théâtre « 20 ans, je m'installe en Lozère », qui est une bonne illustration de l'arrivée d'un jeune couple, en tout cas d'une jeune personne qui suit son conjoint, qui vient de s'installer sur le territoire.
Pour contacter le réseau Accueil Lozère, connaître les opportunités d'installation et avoir plus de renseignements sur les réunions publiques à venir, vous pouvez consulter le site internet du Conseil général de la Lozère, lozère.fr.
Comme chaque mois, Pôle emploi a publié les chiffres du chômage et Comme depuis des mois, ces chiffres ne sont pas bons. Le Languedoc-Roussillon n'échappe pas à la règle avec une hausse d'un peu plus de 11% sur un an.
Mais plutôt que de s'intéresser aux chiffres une fois par mois, certaines personnes ont décidé de s'intéresser aux chômeurs et aux différents acteurs de l'emploi. Essayer de comprendre les mécanismes du chômage, l'organisation de Pôle emploi, relever les points faibles du système, c'est le défi que s'est lancé Cécile Hautefeuille, journaliste au chômage, en lançant un blog intitulé « Non sans humour, le ministère du chômage et des idées reçues ». Elle explique par téléphone à Rémi Goujon de Radio Escapade le but de son blog.
Alors l'idée de base, c'était vraiment de se dire, de faire un blog voilà, qui parle du chômage, mais aussi des acteurs de l'emploi, de tout ce qui tourne autour de cette problématique, effectivement. Et l'idée, c'était de ne pas avoir un ton misérabiliste, parce que c'est pas le but de, voilà, c'est pas d'être misérabiliste, mais c'est pas non plus d'être complètement revendicatif et de casser effectivement du sucre sur le dos de Pôle emploi. C'était vraiment l'idée de base. Et on s'est dit, nous, on veut pas en faire un espace anti-Pôle emploi. Donc on s'est dit, ce sera un espace de témoignage, d'échange aussi, parce qu'on aimerait bien que les gens voilà, échangent. Et aussi, on donne la parole aux gens de Pôle emploi. Alors pour le moment, on n'en a pas eu trop l'occasion, même si on a quelques commentaires qui nous sont un peu remontés sur le blog avec des gens de Pôle emploi qui venaient dire des choses. Mais nous, on veut vraiment donner la parole à tout le monde et on invite tout le monde à venir s'exprimer, même les gens qui ne sont pas demandeurs d'emploi, à tout le monde. Après, évidemment, les premiers concernés, ce sont les demandeurs d'emploi, mais on n'est pas là pour... C'est ce que je disais d'ailleurs à quelqu'un de Pôle emploi qui nous a écrit, qui nous a dit « Ne me jetez rien à la figure, je travaille à Pôle emploi » et je lui ai répondu « Nous, on n'est pas là pour vous jeter des trucs à la figure, nous, ce qu'on dénonce, c'est le système, c'est pas les gens. » Parce que les gens qui travaillent à Pôle emploi, moi, je les trouve admirables pour la plupart. Il y a des cons partout, dans chaque profession. Mais vraiment, l'idée, c'est pas de... On n'est pas anti-Pôle emploi, loin de là. Au niveau de Pôle emploi, le blog commence à être connu. Et ça commence, effectivement, les gens commencent à nous laisser des mails, etc. Et je pense que l'anonymat, évidemment, leur permet de s'exprimer plus facilement. Et je pense qu'ils ont, Ils ont envie de, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais certains, moi je m'en rends compte, ont envie de parler parce que déjà, effectivement, ils ne peuvent pas trop parler publiquement. Et surtout, je pense que pour le coup, voilà, encore une idée reçue, ils en ont marre qu'on dise d'eux que c'est des incapables et qu'ils n'ont pas envie d'aider les gens parce que c'est pas vrai. Ils n'en ont juste pas les moyens, en fait. Finalement, à chaque témoignage, je me dis c'est incroyable. On a des témoignages vraiment hallucinants, quoi. Alors, encore une fois, voilà, moi qui connais un petit peu le système et la machine, ça me surprend pas plus que ça, mais ça reste, voilà, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, waouh, il y a des gens à qui il arrive ça, il y a des gens à qui on dit ça, il y a des gens à qui on fait ça, c'est quand même assez sidérant, quoi. C'est quand même assez sidérant. Et les gens ont besoin d'en parler. Et c'était ça aussi, juste pour terminer. L'idée aussi de ce blog, c'est qu'on s'est dit, les demandeurs d'emploi, ils sont très isolés finalement, ils se sentent seuls, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de communiquer. C'est difficile d'être au chômage, c'est difficile de se lever le matin et d'avoir zéro perspective ou très peu. Et cet isolement, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce blog. On prétend pas à sortir tous les gens de leur isolement, c'est pas ça, mais juste leur donner un espace supplémentaire de témoignages. Et les gens que j'ai pu interviewer jusqu'ici, qu'on a à peu près un témoignage par semaine depuis le lancement du blog, à chaque fois, à la fin, ils me disent « Ah ben merci, c'est sympa de parler de nous. » Et ils espèrent aussi parfois que leur cas particulier va pouvoir donner envie à d'autres gens de parler et pourquoi pas de faire quelque chose ensemble, en fait.
Si vous vous sentez concerné, vous pouvez aller consulter le blog à l'adresse suivante www.chômage.gouv.org.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce jeudi 28 mars a eu lieu à Nîmes, dans le Gard, l'inauguration du nouveau lieu d'accueil et d'activité du Secours catholique au 10 boulevard Natoire, tout près de la gare. S'associer avec les personnes rencontrées et ensemble devenir acteurs de fraternité. Voilà l'essentiel de ce nouveau lieu de vie. Différents ateliers, peinture, cuisine, couture, accompagnement scolaire, mosaïque, etc. Ainsi qu'une boutique solidaire. Voici quelques extraits de cette inauguration recueillie par Grégory Muller pour Radio Alliance Plus.
Bienvenue à tous dans ces locaux du boulevard Natoire, du 10 boulevard Natoire, dans lesquels nous sommes installés depuis l'automne dernier, Alors ce sont des locaux qui sont, même s'ils sont spacieux, aujourd'hui nous sommes serrés parce qu'il y a plus de 100 personnes réunies dans ces locaux pour cette inauguration. C'est l'occasion de montrer ce que fait le Secours catholique, comment le Secours catholique agit et ce vers quoi nous voulons aller. Et je dois dire et rappeler que le but du Secours catholique, c'est de s'associer avec des personnes en difficulté pour construire avec ces personnes une société plus juste et plus fraternelle. Et nos activités sont une base pour ce travail. Pour nous, s'associer, c'est permettre à des personnes de s'entraider entre bénévoles et personnes accueillies. C'est accompagner ces personnes, c'est leur permettre de révéler leurs talents, leurs compétences, leurs richesses. Et on essaye de le faire aujourd'hui à travers les différentes œuvres qui sont exposées. De mettre en valeur les personnes à partir de leurs compétences et non pas baser la relation sur les manques des personnes.
Bonjour, alors c'est Monique Arroubi. Oui, je suis venue ici pour briser, moi c'est la solitude.
Bonjour, je m'appelle Violetta, je suis d'origine roumaine. Je suis venue au Secours catholique pour apprendre le français.
Il y a d'autres délégations qui ont un plus par rapport à nous. Par exemple, la délégation de l'Hérault a un accueil de jour. La délégation de Marseille a un accueil de nuit. Il y a des délégations qui ont des ventes de gros matériel ou de meubles que nous n'avons pas. Mais nous avons centré la délégation de Gare. Nous avons centré le maximum d'activités sur l'accueil, sur l'écoute, sur la réception des gens et sur l'accompagnement dans leur chemin de vie. Je crois que c'est important. Bon, il y a de l'aide un peu financière, mais ça devient de moins en moins important. Et surtout, nous voulons accueillir et amener les gens à être responsables dans leur vie, à prendre des responsabilités chez nous ou ailleurs. Enfin voilà, donc c'est devenir grand, solidaire des autres et puis nous échapper peut-être un jour parce que ils vont pouvoir retrouver le calme, ils vont retrouver la sérénité. Et puis, ils vont prendre des responsabilités dans leur vie, dans leur travail, dans les associations de quartier, des choses comme ça, quoi.
UFC Que Choisir Montpellier a décidé de partir à la rencontre des habitants du cœur d'Hérault. Après Clermont-l'Hérault, l'association de consommateurs vient d'ouvrir une permanence à l'Odève, ce qu'explique son vice-président Claude Gobert au micro de Blandine Castagnier de Radio L'Odève.
Effectivement, ça fait un certain temps que nous souhaitions ouvrir une permanence à l'Odève après celle que nous avons ouverte à Clermont-l'Hérault il y a 2 ans maintenant. Cette permanence elle a été rendue possible par la mise à disposition d'une salle dans l'espace Luteva, que nous d'ailleurs tenons à remercier, ainsi que la municipalité de l'Odève pour le soutien qu'elle nous apporte. Avec une équipe, donc animée par une équipe, sous la responsabilité d'Anne-Marie Villers et de quelques bénévoles de Clermont-l'Hérault et de l'Odève, équipe que nous souhaitons d'ailleurs voir se renforcer. Bon, nous sommes une association de consommateurs, on va dire qu'on est la première association de consommateurs en France, qui a à peu près 150 000 adhérents. Donc l'UFC Que Choisir de Montpellier, c'est une des associations locales. Nous couvrons à peu près la moitié est du département, ça concerne à peu près 600 000 personnes. Et nos principales activités, c'est l'information, la défense et la représentation des consommateurs. Et nos permanences, par exemple, servent à recevoir les consommateurs qui ont soit des renseignements à nous demander, soit des litiges avec des professionnels. Et à ce moment-là, nous allons essayer de les aider à résoudre ces litiges. Pour cela, nous sommes quand même obligés de leur demander de devenir adhérents de l'association.
Alors justement, on parlait de Clermont-l'Hérault. Ça fait 2 ans que la permanence est ouverte. Quels sont les problèmes que les gens viennent évoquer ou comment ça se passe ?
Donc la permanence, elle a lieu au CCAS, place Auguste Genovese. Oh, écoutez, les problèmes qu'on rencontre à Clermont-l'Hérault sont à peu près les mêmes que ceux qu'on rencontre à Montpellier et dans toutes nos associations locales. Hein. Donc c'est toujours des problèmes liés au logement, tout ce qui est téléphonie mobile, Internet. De plus en plus, malheureusement, les banques et assurances, et un peu plus accessoirement, tout ce qui est équipement de la maison, tout ce qui relève du droit et de la consommation.
Et donc, ça a prouvé l'utilité de votre présence dans ces lieux un peu plus loin, éloignés de Montpellier.
Oui, parce que l'objectif, c'était de se rapprocher de nos adhérents et des consommateurs. Bon, c'est pas toujours facile de venir à Montpellier, tant plus qu'on est, on est bien placé à Montpellier, on est au centre-ville. Mais enfin, accéder au centre-ville à Montpellier, c'est parfois un peu galère, même avec les transports en commun. Donc, on voulait se rapprocher. Et ça, je dirais, après 2 ans à Clermont-l'Hérault, même un petit peu plus de 2 ans, le résultat est largement positif. On a accueilli plusieurs centaines de personnes. Et puis, le nombre d'adhérents a été multiplié par 2. Donc, ça prouve bien qu'il y a un besoin de proximité pour répondre aux besoins de certaines personnes, etc.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Partons maintenant à la découverte des nouveaux cafés de pays en Carcassonne dans l'Aude. Un label créé pour favoriser les petits cafés ruraux qui tend à se développer dans la région. Reportage d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
3 nouveaux cafés de pays sur le pays de Carcassonne. Ils sont désormais 5 au total dans 5 coins du territoire, à Cosne-Minervois, à l'Espinassière, à La Redorte, au Cammaz et à Palaja. L'objectif de ce label est de mettre en valeur le commerce de proximité, vecteur de lien social. Et la région était à la traîne, mais elle se rattrape au fil du temps. On compte actuellement 30 cafés de pays dans la région. Nathalie Lalande, chargée de mission à la Fédération des pays touristiques du Languedoc-Roussillon.
On est resté longtemps à peu près 15 cafés, progressivement une vingtaine. Et c'est vrai que là, en l'espace d'un an, voilà, il y a eu une dizaine de candidatures. Donc oui, c'est d'un seul coup, ça, c'est quelque chose qui prend bien.
Est-ce que, parce que la région est au soleil, parce que c'est déjà un endroit touristique, c'est plus difficile d'installer cette démarche de convivialité d'accueil?
Alors oui, comme j'ai expliqué, c'est vrai que Languedoc-Roussillon, ça commence à venir. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la région où il y avait cette notion de convivialité et d'accueil de qualité. Et ce qui est fort dommage, puisqu'on sait que de toute façon, il y a quand même des professionnels qui le font au jour le jour. Et notre démarche, en fait, elle ne vient pas en plus. Souvent, on est juste là pour révéler ce qui existe. Et donc, souvent, ces professionnels, ils ont déjà cette démarche-là d'accueil, de qualité des produits, de valorisation du territoire. Et nous, en fait, on les découvre et on les met en avant, on les met en valeur. Voilà, c'est plutôt ça, notre démarche. Voilà. Mais ça existe déjà en Languedoc, mais là, ça se développe.
Et parmi ces 3 nouveaux cafés de pays en pays de Carcassonne, le Salon de Vauban au Cammaz, l'Arbre du Voyageur à Palaja et le Rivacel à La Redorte. Écoutons justement Katia Ortega, gérante de ce dernier.
Nos clients attendent vraiment des produits du terroir, découvrir des nouvelles choses. Et ça, c'est une demande effectivement prégnante. Bon, nous, c'est vrai qu'on a une clientèle de beaucoup d'étrangers, mais qui sont aussi dans cette démarche, qui veulent découvrir du bon vin, qui veulent découvrir des nouvelles choses. Et c'était, voilà, dans cette démarche-là, on avait besoin d'avoir un panel important de produits. Et puis, au sein du Café de Pays, on a aussi trouvé une équipe avec laquelle on peut échanger. Et c'est vrai qu'en étant indépendant, du coup, on ne se sent pas seul. Et c'est une très bonne équipe. Et déjà, au sein de cette équipe-là, il y a une convivialité. Donc, on se retrouve vraiment dans notre démarche au sein des Cafés du Pays.
Ça vous a ancré aussi dans votre territoire, en le connaissant mieux, en pouvant être davantage ambassadeur?
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses à visiter autour de chez nous auxquelles on mettait pas forcément l'accent, et là ça nous a incité en fait à aller voir vraiment ce qui se passait, et puis aussi à former nos équipes, parce que bon, en pleine saison, on est quand même 10 personnes à travailler au sein du restaurant, et du coup il faut aussi les inciter à parler de ce qui se passe autour de nous, et c'est pas forcément la démarche des employés que l'on peut avoir. Donc il faut vraiment les pousser à aller voir ce qui se passe autour de chez nous pour qu'ils puissent aussi l'expliquer aux clients.
Et sachez qu'à l'occasion de la fête des cafés de pays, le 30 mars prochain, de nombreuses animations seront proposées au Rivacel, à La Redorte, mais aussi dans les 13 cafés de pays audois.
On va terminer ce carnet de région avec de la chanson et l'une des Québécoises les plus connues en France. Alors non, ce n'est pas Céline Dion ni Diane Dufresne, mais Linda Lemay. On l'a découvert avec des chansons pleines d'humour comme La Marmaille, Chérie tu ronfles ou encore La Visite. Dans ses chansons, elle décrit notre quotidien, mais aussi des textes mélancoliques autour de la séparation ou de l'enfance. Linda Lemay est actuellement en train de finir sa tournée en France avant la sortie de son prochain album. À l'occasion de sa venue dans l'Hérault à la Grande Motte, Cédric Combé n'a pas manqué de joindre cet artiste à la joie communiquée. significative. Propos recueillis par Cédric Combé de RCF Maguelone Hérault.
Je veux pas de visite, parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite, je veux pas leur dire comment je vais, et puis j'ai les cheveux tout défaits, je veux pas de visite.
Linda Lumet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu en France, c'était dans les années 90, en 1995, je crois, qu'on vous a découvert en France. C'est pour ça que le public vous suit, justement, c'est que vous parlez finalement alors de vous-même, a priori avec vos chansons qui parlent d'amour et de relations amoureuses, mais finalement en parlant de vous-même, ça atteint également le public qui vous suit.
Ben, c'est que je parle de sujets qui sont assez universels. Donc, quand je parle de moi-même ou que je parle de sujets que j'ai pas nécessairement vécu, mais je les raconte comme si je les avais vécus, c'est que je fais passer les sujets par moi et je me dis, bon Dieu, si ça m'arrivait, comment moi je réagirais? Donc, ça devient très, très personnel dans ma façon de le raconter. Cependant, heureusement pour moi, j'ai pas tout vécu ce que je raconte en chanson, mais c'est vrai que les gens se sentent très proches de moi parce que dans ma façon de réagir face à tel sujet en poésie, ben les gens se reconnaissent beaucoup et s'approprient mes textes. Donc, mes textes les accompagnent beaucoup dans leur vie. Et je crois qu'il y a aussi cette curiosité qu'ils ont de découvrir mes nouvelles chansons. Et ça, je suis une artiste chanceuse pour ça parce qu'ils écoutent ça et ils sont contents parce que tout à coup, c'est des nouvelles histoires, c'est des nouvelles chutes. Et les gens se réjouissent de ça. Et moi aussi. Alors, ça me garde toujours dans les projets. C'est pour ça que dans le spectacle, vous allez voir, il y a non seulement des chansons qui tournent depuis un bon bout de temps parce que c'est la tournée du best-of, donc plusieurs chansons que les gens connaissent déjà, mais il y a aussi une bonne part de nouveautés dans le spectacle qui annonce le prochain album qui est prévu pour l'automne.
Quel public vous suit? Ce sont des jeunes, des moins jeunes, également des plus âgés?
Il y a vraiment toutes les générations sont là, sont au rendez-vous. Donc, souvent, les gens se déplacent en famille. Et c'est pas rare que je vois trois générations dans une même famille, dans une salle de spectacle. Je rencontre d'ailleurs les gens après les spectacles pour une session de dédicace. On a beaucoup de plaisir. Comme ça, c'est toujours un peu rapide, mais on a le temps quand même d'échanger de belles choses, de beaux moments, de beaux sourires et quelques confidences. C'est sécurisant d'avoir un public comme celui-là. On sent que c'est pas une mode, c'est plutôt très rassembleur. On dirait que mes chansons sont rassembleuses dans les familles. Et souvent, bon, ça va être le père va dire, ah ben moi, j'ai appris à connaître tes chansons par ma fille. Le fils va dire, ah ben moi, c'est ma mère qui faisait jouer ça dans la maison. Puis j'ai fini par accrocher parce que c'était toujours ça qui tournait à la maison. Alors, vraiment, des histoires de famille.
Comment t'as fait, maman? Pour trouver le bon gars, tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec.
Et ainsi se termine notre dernier carnet de région du mois de mars. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition dont la rédaction sera assurée tout au long du mois d'avril par Radio Aviva à Montpellier.